avec ses charmantes demoiselles.
Salut!
Cet automne, Boulevard te tient informé toute la semaine. Marceau le matin, 6h. Le Pit Stop avec Gravel, 7h45. Le Point de Max, 10h. On en jase le midi. Gravel dans le retour, 14h.
Juste Gravel dans le retour peut faire ça.
Marceau le soir, 8h. Boulevard 102.1. Maintenant 100% parlé en semaine. 100% talk.
Boulevard 102.1.
Marceau le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau le soir.
Comme à chaque lundi, on a le plaisir de discuter avec Maître Marc Bellemare, l'ex-ministre de la Justice sous l'ère Jean Charest. Il est avec nous à chaque lundi. J'ai le plaisir de le retrouver. Bonjour, M. Bellemare. Comment allez-vous?
Hey, ça va bien, toi?
Ben oui, ça va bien, ça va bien. Ça va bien, oui, puis non. Je me pose plusieurs questions par rapport à mon gouvernement, qu'il soit provincial ou fédéral. Je ne sais pas si vous étiez au fait ce matin. On commençait du côté d'une association de camionnage, là, des gens qui se sont autoproclamés association de camionnage. C'est une page Facebook qui s'est créée, là, Assez c'est assez, sauvons l'industrie du camionnage. Et c'était le début des lundis infernaux, c'est comme ça qu'ils avaient appelé ça. Ces gens-là demandent à ce qu'on retire les illégaux de la route, des gens qui n'ont pratiquement pas de formation en véhicules lourds, des gens qui se promènent avec des véhicules qui ne sont peut-être pas très sécuritaires, des gens qui tuent du monde sur nos routes au Québec. Là. C'est tout le temps dans le secteur de Brampton en Ontario, c'est tout le temps des gens qui viennent de ce secteur-là. Ils ne sont pas dûment formés. Eux, ce qu'ils veulent, c'est avoir un emploi puis gagner leur vie, bien entendu. Mais ils font affaire avec des écoles de formation qui leur donnent un permis de conduire pour véhicules lourds assez rapidement. Puis Maître Bellemare, c'est une catastrophe. Donc, on dénonçait ça un peu par cette manifestation-là qui avait lieu ce matin. On veut aussi le retour des contrôleurs routiers sur la route, parce qu'avec le jugement du tribunal, bien, les contrôleurs routiers doivent rester dans leur cabane à la balance parce qu'ils ne sont pas armés. Bien, Jonathan Julien, d'ailleurs, qui a réagi à cet effet-là en disant qu'il allait régler le problème dans les prochains jours, que ça allait aller très, très rapidement dans ce dossier-là. Mais c'est ça. Ce matin, je me suis levé. Je pensais que ça allait être une grosse journée pour les camionneurs, qu'il allait avoir énormément de gens pour ralentir le trafic parce qu'on voulait faire parler, ils voulaient faire parler d'eux. Finalement, bien, ça a été un fiasco monumental. Mais j'espère juste que les idées, les demandes des camionneurs seront entendues parce que c'est légitime, ces demandes. Là, il y a de véritables dangers publics sur la route. Puis actuellement, il n'y a personne qui s'en occupe.
Oui, c'est ça, c'est le no fault. Hein? Alors, c'est un peu le free for all, dans le sens que on parle beaucoup au niveau de la sécurité routière, mais on ne prend pas vraiment de moyens pour s'assurer qu'il n'y aura pas d'accident. Je regarde ça, là, tous les permis qui sont donnés aux nouveaux arrivants, qui n'ont pas nécessairement passé des tests. Il y a beaucoup au niveau des aînés aussi, il y a beaucoup de contrôles qui sont faits. Et si je regarde le nombre d'aînés qui viennent au bureau pour me consulter sur des permis suspendus ou sur des conditions médicales qui peuvent peut-être affecter leur capacité de conduire, je te dirais que de ce côté-là, je pense que la SAC est pas mal réveillée. Là, ils font beaucoup, beaucoup de tests et beaucoup, beaucoup de formulaires, de questionnaires médicaux sur les aînés, je pense, à partir de 70 ans. Là, c'est un petit peu compliqué. Mais on a l'impression que sur la route, il n'y a personne pour vérifier. Ils vérifient sur l'ordinateur. Il vérifie l'âge, puis il vérifie, tu sais, il y a un contrôle, je dirais peut-être plus numérique, là, plus informatique, là, mais sur la route, des wearers, là, des contrôleurs avec des lunettes, avec des automobiles pour voir jusqu'à quel point les conducteurs sont déficients, il n'y en a pas beaucoup. Et il n'y a pas beaucoup de policiers non plus. C'est assez facile de faire Québec-Montréal, Montréal-Québec, aller-retour dans la même journée sans croiser le moindre policier et le moindre contrôleur. Alors, c'est sûr que du côté de l'Ontario, il y a des permis qui sont octroyés de façon assez aléatoire et ça peut avoir un impact sur le Québec. On sait qu'avec, surtout avec les projets du premier ministre Carney, là, de laisser tomber des barrières beaucoup, la sécurité routière va continuer d'être un enjeu provincial, Mais il reste que, écoute, sur l'autoroute, les camions, là, tu vas facilement trouver un camion sur deux qui vient ou bien du Nouveau-Brunswick ou bien de l'Ontario, les gros transporteurs. Et si les gens ne sont pas qualifiés au sens des lois du Québec et des règles du Québec, mais ben là, moi, je ne suis pas d'accord. Il va falloir à un moment donné qu'on ait davantage de contrôle sur la route et non pas nécessairement sur les ordis de la SAC.
Oui, parce qu'actuellement, les contrôleurs routiers, ils ont à peu près le même mandat sur la route que les policiers de la Sûreté du Québec, à quelques exceptions près, là. Je sais que les contrôleurs routiers peuvent faire des choses, exemple, faire ouvrir le camion. Si jamais ils soupçonnent qu'il y a de la drogue à l'intérieur de ce véhicule-là, ben, ils peuvent le faire ouvrir la remorque aussi, ce que les policiers ne peuvent pas faire automatiquement, à ce qu'on m'a expliqué. Mais là, les contrôleurs routiers veulent des armes à feu, parce qu'ils considèrent que leur métier n'est pas hyper sécuritaire sans armes à feu. Puis je vous rappellerai que dans le dossier d'un dossier, entre autres, je pense que c'est dans le secteur de la Beauce où je pense que c'est la Beauce, ils ont fait ouvrir un camion, puis il y avait des armes d'assaut à l'intérieur de ce camion-là. Donc, les gars et les filles se sentent pas en sécurité, veulent être armés. Problème étant que la prochaine convention collective qui signeront, ben, ils vont vouloir avoir le même salaire que les policiers de la Sûreté du Québec, là. Il y a environ
Oui, c'est
entre
ça.
15
C'est un enjeu de gros sous encore. C'est toujours la même affaire,
Parce
sauf que.
qu'on nous parle de la sécurité, mais c'est un 15 000 piastres de plus qu'ils pourraient gagner à leur prochaine convention collective. Et ce serait légitime parce qu'ils font la même job que les policiers.
Oui, c'est ça. Puis je pense qu'on devrait donner aux contrôleurs routiers les mêmes pouvoirs que les policiers sur la route. En d'autres termes, ils ne peuvent pas rentrer chez vous pour un cas de violence conjugale, puis ils ne peuvent pas nécessairement non plus enquêter sur vous pour des questions de nuisance publique ou de rodage, mais ils pourraient sur la route avoir les mêmes pouvoirs que les policiers. Moi, je suis d'accord avec ça, c'est-à-dire intercepter quelqu'un. Arrêter quelqu'un pour des questions de conduite déréglées, que ce soit relié à l'alcool, que ce soit relié à la conduite erratique, que ce soit relié à votre statut de conducteur, à votre expérience, fouiller puis être armé. Ben absolument, parce qu'on est en 2025, puis dans la région de Montréal, il y a toutes sortes de monde, hein, puis à un moment donné, tu es obligé d'aller fouiller un petit peu plus, fouiller le chargement pour voir si le chargement est conforme, fouiller pour voir s'il n'y a pas des engins ou des objets qui peuvent être dangereux sur la route, en cas de collision notamment, ou même sans qu'il y ait de collision quand tu traverses le tunnel, par exemple. Alors, oui, on devrait leur donner ce pouvoir-là parce qu'il y a de plus en plus de véhicules, il y a de plus en plus de monde dangereux, il y a de plus en plus de nouveaux arrivants, il y a de plus en plus de trafic qui vient interprovincial et international aussi parce que le Québec a des frontières limitrophes avec plusieurs États américains et avec plusieurs provinces canadiennes. Alors, ça circule, puis ça vient de tout partout, et puis il faut qu'on ait de meilleurs contrôles sur la route. Fait que je suis d'accord avec les revendications des contrôleurs routiers et les camionneurs, évidemment, qui souhaitent que les contrôleurs routiers soient davantage outillés, puis davantage présents. Mais de là à bloquer le trafic, pas à prendre la population en otage, ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Les Québécois ont assez souffert d'être pris en otage, hein. Des conflits en 2025-2024, là. Les hôpitaux, les CPE, les sociétés des alcools, il y a des problèmes tout le temps. Il y a tout le temps des grèves. Là, c'est à Montréal cette semaine, des moyens de pression alternatifs. Je pense que c'est lundi, mercredi, vendredi. Écoute, là, c'est incroyable. Une ville quand même immense où tout le monde se réunit pour travailler ou pour étudier. Avec le chaos qu'on a cette semaine, pas de transport en commun, t'es obligé d'aller travailler à pied ou à vélo ou en automobile. Écoute, ça n'a aucun bon sens. Et je pense que le gouvernement Legault, là, qui est en quête de popularité, là, s'il veut développer sa popularité par aller rejoindre la préoccupation de l'ensemble des Québécois, là, il devrait regarder toute la question des relations de travail et toute la question du droit de grève dans les secteurs publics. CPE, transport, santé, éducation, parce qu'il y a quelque chose à faire de ce côté-là, parce que ça n'a aucun bon sens. Les Québécois sont pris en otage à tour de bras et les gens en ont soupé de ça. Fait que s'il y a un endroit où le gouvernement peut faire quelque chose, c'est bien là. Puis qu'il fasse savoir assez vite. Là.
Ouais,
On n'a pas entendu M. Legault nous parler de ça ben hier soir, tout le monde en parle.
Non, on va y venir d'ailleurs, mais je ne veux pas défendre l'association, la page Facebook assez, c'est assez. Parce que je veux dire, j'ai essayé de les avoir en entrevue, ça n'a pas fonctionné. Parce que ce que j'ai compris, c'est que si j'étais pas à 100% d'accord avec eux, j'étais contre eux. Donc, on parle de gens qui sont très extrémistes. Et quand j'ai été tagué sur leur page, j'ai essayé de jaser avec eux autres. Il y en a au travers de ça qui m'ont menacé de mort. Il y en a qui m'ont menacé de me sacrer une volée. Fait que je me suis dit, c'est peut-être pas le bon moyen de communiquer, là, menacer de mort des gens qui n'ont pas la même opinion que vous autres. Donc, je ne veux pas les défendre, mais leurs demandes sont légitimes. Puis, parce que leurs demandes sont légitimes, j'ai pas le choix d'en parler. T'sais. Je veux dire, ça touche tout le monde. Puis, l'industrie du camionnage, c'est très important pour quiconque nous écoute actuellement, en fait, pour tout le monde. Parce que sans eux, il n'y a rien autour de nous. Il n'y a pas de bâtisse. Il n'y a pas, dans mon cas,
il n'y a pas de provisionnement, nourriture, tout ça.
Il n'y a rien. Ces gens-là sont hyper importants pour nous. Mais la façon qu'ils ont trouvé, le fameux mouvement assez, c'est assez, sauvons l'industrie du camionnage, c'est de prendre en otage la population. Mais ils ont appris ça de quelque part. Ils ont regardé les syndicats des professeurs, syndicats de ci, syndicats de ça. Prennent les syndicats des éducatrices spécialisées là, en garderie, prennent la population en otage, puis le gouvernement réagit. C'est peut-être la seule façon de faire réagir le gouvernement, Maître Bellemont.
Oui, puis le gouvernement est plus à l'écoute que jamais, là, parce que, tu sais, du côté des transports, là, normalement, il devrait avoir une meilleure écoute là, qu'il y avait avant, parce que le gouvernement est en chute d'un sondage, il cherche désespérément des sujets intéressants, des dossiers sur lesquels ils pourraient satisfaire la population. Alors, la sécurité routière, c'est l'affaire de tout le monde. C'est l'affaire des camionneurs, évidemment, au premier chef, mais c'est l'affaire aussi des automobilistes puis de tout le monde qui utilise le réseau routier qui a quelques 60 000 km au Québec. Là. Il n'y a pas juste l'autoroute 20 entre Québec et Montréal. Il y a beaucoup de routes aussi où ça circule. Et pour accéder au Québec, bien, généralement, tu passes, par exemple, les Américains vont passer par la Beauce. Il y a toutes sortes de points d'accès, la colle, tout ça. Donc, les postes frontaliers sont davantage sollicités. Puis c'est peut-être à partir de ça qu'on pourrait faire de meilleurs contrôles routiers. Maintenant, prendre la population en otage, c'est pas une bonne idée. Puis il y a certainement d'autres moyens de le faire. Mais je pense qu'ils ont compris ça parce que ce matin, on s'attendait à ce que les routes aux abords de Québec et Montréal soient complètement paralysées. Puis je pense que ça n'a pas été parfait parce qu'on sait qu'il y a des bouchons partout, mais ça a été pas moins fluide nécessairement que ce qu'on est habitué de voir pour un lundi.
Ben en fait, moi, j'ai couvert la circulation toute la matinée, Maître Bellemont, parce que j'ai une émission matinale, mais lève à 2 h du matin à cette heure. Fait que j'ai le temps de couvrir la circulation. Puis ce matin, tout était au vert. Là. Il y a eu un petit peu de rouge, mais c'est ce que les auditeurs nous mentionnaient, c'est que ça allait mieux qu'un lundi ordinaire. Fait que, bon, donc, les camionneurs qui ont fait partie. Je sais qu'à Montréal, les camionneurs étaient environ une cinquantaine. Donc, ça a eu un impact, là, mais pas l'impact qu'on pensait. Et du côté de Québec, il y avait entre 10 et 15 camions. Donc, c'est une catastrophe pour cette organisation-là. Mais je suis persuadé, moi, que les autres camionneurs qui n'ont pas participé à cette manifestation-là sont en majeure partie d'accord avec les demandes de cette association-là. C'est juste qu'ils ne veulent pas faire partie d'une gang d'extrémistes. Vous avez parlé de « Tout le monde en parle » tantôt. J'ai été très déçu de la part des animateurs là, de « Tout le monde en parle » quand ils ont reçu le premier ministre François Legault. François Legault a marqué quelques points, là, entre autres sur le dossier immigration, mais pour le reste, il avait... tout était au vert pour François Legault, « Tout le monde en parle », ça a été facile.
Oui, ça a été facile, mais M. Legault, il n'y a pas beaucoup de réponses. Moi, j'écoute, je suis un peu comme un juge, j'écoute plus les réponses que les questions. Les juges vont toujours te dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est la réponse, c'est pas la question. Comprends-tu? Peu importe le moyen que tu prends, l'important, c'est de faire parler la personne. Et la personne s'appelait François Legault hier soir. C'est décevant. M. Legault, c'est un excellent politicien de l'opposition. Au pouvoir, c'est un peu plus compliqué. Sur tous les dossiers financiers, tu sais, nous dire, on a 25 000 dossiers d'investissement pour le Québec. D'abord, moi, je me dis, comment ça se fait que le gouvernement est aussi présent dans l'économie? Il devrait peut-être avoir une petite gêne et être moins présent. Mais comparer Northvolt à d'autres dossiers, à des milliers d'autres dossiers, il y a des dossiers dans lesquels il y a quelques centaines de piastres, là. On ne peut pas mettre ça sur le même dossier, sur le même niveau financier que Northvolt. Il n'a pas convaincu, puis je pense que Northvolt, puis Léon, il n'a pas parlé. Il a pas parlé. Il a parlé un petit peu aussi du troisième lien, l'espèce de vire-capot là, qu'on avait vu autour de l'élection partielle dans Jean Talon, qui avait permis au Parti québécois,
Ouais.
avec Pascal Paradis, d'être élu avec quelques 10 000 voix de majorité. Alors, cette tergiversation-là qui montre un manque de pif, un manque de direction, un manque de constance dans son gouvernement. Puis évidemment, sa clique qui continue d'être le talon d'Achille de ce gouvernement-là, puis ça va le demeurer au moins jusqu'en 2026, très certainement. Mais M. Legault n'a pas convaincu. On a l'impression qu'on a moins le goût de l'écouter et des excuses, on aurait pu ci, on aurait pu ça, mais en même temps, l'usure du pouvoir, c'est difficile à combattre, puis à un moment donné, on se souvient. Justin Trudeau, il t'a pas écouté non plus. Tu sais, tu changeais de poste automatiquement quand il commençait avec sa cassette. Hier, on avait la cassette François Legault. Moi, je pense qu'il n'a pas convaincu grand monde de la pertinence de se maintenir au pouvoir. Puis, il n'a pas été question beaucoup des autres partis. Il n'a pas parlé du PQ. Il n'a pas parlé des libéraux qui sont pourtant en avance sur les sondages de façon significative par rapport à lui. Non, je pense que c'est une présence, mais M. Legault. On est habitué de ses mimiques, on est habitué à son ton de voix, on est habitué à ses arguments, mais moi, personnellement, hier, j'ai rien trouvé de positif dans cette entrevue-là. Le fait qu'il ait accepté, c'est bon. Il s'adresse aux Québécois à vaste échelle, mais personnellement, j'ai rien appris de nouveau dans cette entrevue-là.
J'ai l'impression que François Legault a marqué quelques points là, quand il a tenté d'expliquer pourquoi le Québec devrait recevoir moins d'immigration de masse. Il a mentionné que 200 000 personnes sur l'île de Montréal, on parle d'une île de quoi, 2 millions de personnes approximativement, là,
Ouais, c'est ça.
on doit être rendu autour de 2 millions. Accueillir 200 000 personnes de plus, là, faut les loger, ces gens-là, il faut leur trouver des emplois, faut envoyer les enfants dans les garderies, dans les écoles. C'est extrêmement complexe. Puis de voir que les animateurs n'étaient pas capables de réaliser ça, j'ai trouvé ça hallucinant, au même titre que les fameuses prières de rue, qui est une problématique pas mal à Montréal. Si vous vous promenez à Québec, Sept-Îles, Trois-Rivières, il n'y a pas de monde qui prie dans les rues, là. C'est une problématique à Montréal. Guillaume Lepage qui dit ben, il ne doit pas en avoir tant que ça, je vois pas ça de chez nous. Pas trouvé ça très fort de sa part à Guillaume Lepage. Là, t'sais. Ça n'existe
Non,
pas parce
Guillaume
que je vois pas
Lepage,
ça de
non,
chez
mais
nous. Là,
tout le monde en parle, c'est la gauche, là.
Non,
C'est sûr que c'est le plateau, là, la gauche du plateau, là, qui dit,
mais je.
ben non, on devrait ci, on devrait ça. C'est Valérie Plante, c'est ça. Alors, je pense pas que tout le monde en parle soit vraiment une tribune appropriée pour remettre en question et avoir une discussion ouverte et franche à partir de points de vue opposés sur la question de l'immigration et sur la question des prières de rue, honnêtement. Je
Mais
pense pas que ce
Stéphane,
soit je pense que c'est organisé pour que on mette en boîte la personne qui vient,
ouais.
que ce soit Legault ou un autre, qui vient avec un point de vue qui est un peu moins ouvert à l'immigration, puis un peu moins ouvert à toutes ces manifestations publiques là, de propension à promouvoir une religion et un habillement et une façon d'être sur l'île de Montréal et au Québec en général. C'est certainement pas le bon plateau, puis faut quand même pas s'attendre à ce que Guillaume Lepage commence à dire à M. Legault, ben c'est très bien que vous soyez contre les prières de rue, mais Legault a pas besoin de Guillaume Lepage pour avancer sur ce dossier-là. Il sait très bien que sur toute la question identitaire, les prières de rue, le port du voile dans les CPE, la loi 21, il sait que les Québécois sont de son côté. Fait que l'important, c'est de le dire et c'est de le rappeler. Mais quand je te dis qu'on n'a rien appris dans cette entrevue-là, c'est que ces choses-là, on les savait. Tu sais, M. Roberge, qui est maintenant ministre de l'Immigration puis de la Laïcité, on sait qu'il est en train de préparer un projet de loi. M. Legault l'a déjà dit. Il est en train de préparer un projet de loi sur la question des prières de rue, puis il va prendre les moyens pour interdire ça et que les prières se fassent dans les lieux de culte. Tu sais, les processions de la fête Dieu, là, il n'y en a plus ben ben au Québec, là. On n'est plus là. Il y a eu une époque où la religion dominait au Québec. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On a une société laïque. Les Québécois sont d'accord avec ça, que ce soit pour la religion catholique ou pour le bouddhisme ou pour l'islam, rentrez dans vos églises, vous en avez, là, il y en a des mosquées à Montréal, là, mais faites vos prières à l'intérieur de vos lieux de culte, là. Puis le reste, là, mais ça devient l'espace public et c'est pas à vous à commencer à occuper ces espaces-là pour des motifs religieux. Puis Legault le sait très bien, mais c'est ça, c'était connu, Yannick.
Avez-vous l'impression que ça va être la question de l'urne aux prochaines élections? Parce que le Parti québécois a à peu près la même idée que la Coalition Avenir Québec sur l'immigration massive. Avez-vous l'impression que ça va être la question de l'urne?
Bien, je pense que le Parti québécois s'est déjà manifesté pour même avoir des seuils d'immigration qui étaient plus bas. Mais le problème qu'on a fondamentalement au niveau de l'accueil, parce qu'il y a deux choses, la laïcité, c'est une chose, et l'immigration, c'est une autre chose. C'est sûr que plus il y a d'immigrants, plus il y a d'immigrants qui partagent une religion autre que celle qui est la religion catholique au Québec, ou qui ont des propensions à manifester ouvertement et publiquement par leur habillement ou par leur pratique sur les lieux publics, la pratique religieuse. Plus il y a de gens qui appartiennent à cette confession-là, bien plus c'est problématique. Mais la question de l'immigration, c'est essentiellement une question de pouvoir, pouvoir constitutionnel. Puis M. Legault, les Québécois comprennent qu'il se plaint du fédéral, qu'il laisse rentrer bien du monde et qu'il ne contrôle pas parce que c'était l'ère Trudeau. Moi, je pense qu'avec Carney, c'est un petit peu plus serré, mais dans l'ère Trudeau, c'était vraiment le bord ouvert. Puis Trudeau qui envoyait des tweets, là, tu te souviens, en 2016, il avait envoyé des tweets pour dire aux immigrants aux États-Unis « Welcome in Canada », le chemin Roxham, tout ça. Ça nous a traumatisés littéralement au Québec. On est pogné avec ça aujourd'hui parce qu'il y a eu trop d'immigrants qui sont rentrés trop facilement. Maintenant, on n'est pas capable de les intégrer et de leur donner des services adéquats. Parce que le palier de service au Québec est beaucoup plus intéressant qu'ailleurs au Canada, fait qu'ils viennent ici.
Exact.
Alors, le problème, c'est une question de partage des pouvoirs. Alors, quelle est la question suivante, c'est quel est le parti politique au Québec qui est le plus susceptible d'obtenir des concessions du fédéral au niveau de l'immigration, d'aller chercher, parce qu'on se souvient que l'entente Colin-Couture, je pense qu'il date de 1977, qui donnait certains pouvoirs de l'immigration au Québec. C'était le gouvernement de René Lévesque, le premier gouvernement de René Lévesque qui a obtenu ça. C'est M. Couture qui était un curé, qui était, je pense, le député de Saint-Henri, qui a été le ministre de l'Immigration, qui est allé chercher ces pouvoirs-là. Ça fait quand même une cinquantaine d'années. Alors, le Parti québécois a déjà réussi là-dessus. Puis si tu demandes aux Québécois quel est le parti politique qui est le plus susceptible d'aller chercher des pouvoirs en matière d'immigration pour régler cette question-là, parce que M. Legault parle de la conséquence, mais ils ne parlent pas de la solution. Ben, les gens vont tous te dire, ben, Legault, il est allé rien chercher au fédéral. Au niveau des transferts en santé, il n'a même pas eu 1 milliard. Alors, il demandait beaucoup plus que ça. Il n'a presque rien eu. Alors, les Québécois comprennent que oui, il y a un problème dont M. Legault est conscient au niveau de l'immigration et des seuils d'immigration qu'on n'est pas capable de satisfaire ici à travers les services publics qu'on leur donne. Mais M. Legault n'est pas considéré, je pense, pour beaucoup de Québécois comme étant l'homme à la tête d'un parti qui va être capable d'aller chercher des concessions du fédéral au niveau des pouvoirs en immigration. Alors, ça veut dire que ce pouvoir-là serait davantage possible d'aller chercher ce pouvoir, des pouvoirs additionnels en immigration avec le PQ ou avec les libéraux. Mais certainement pas avec M. Legault, parce que depuis 8 ans, il n'y a rien obtenu.
OK. Là, je comprends que François Legault veut se pencher là-dessus, mais est-ce que ce ne serait pas aux villes, aux municipalités, de décider ce qu'on peut faire et ce qu'on peut ne pas faire à l'intérieur de la ville? Parce que, tu sais, l'histoire des prières de rue, ça touche vraiment Montréal. Québec, épisodique. Là, si on regarde quand il y a quelque chose à Sainte-Anne-de-Beaupré, la basilique, ils veulent faire des messes à l'extérieur. La ville pourrait décider à savoir quel moment on peut faire ce type de messe-là en public. Parce que faut mettre ça à la grandeur du Québec, selon vous?
Oui, moi je pense que oui. Okay. Pourquoi? Okay. Parce que d'abord, c'est un problème qui est à Montréal actuellement, mais qui va évidemment se généraliser. Je pense bien au rythme où les nouveaux arrivants puis les gens d'une certaine confession sont de plus en plus présents, même à Québec ou même en région. Alors, si c'est permis à Québec puis c'est toléré, ils vont probablement éventuellement le faire ailleurs. Donc, je pense que c'est le gouvernement du Québec qui devrait s'occuper de ça. Et l'idée qui avait été avancée par le comité de Mme Pelcha, là, qui avait regardé la laïcité il y a quelques mois,
ouais,
et sur lequel le ministre Roberge planche actuellement dans le cadre d'un éventuel projet de loi, c'était de donner ça aux villes. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça parce que Mais tu regardes à Montréal avec Mme Plante, là. Elle est d'accord avec ça, les prières de rue, là. Je suis convaincu de ça, moi. Je suis convaincu que dans son fort intérieur, elle est bien contente de ça, puis elle trouve que c'est du multiculturalisme, puis elle trouve que c'est respecter la liberté de religion, puis que c'est donc le fun à Montréal qu'on ait tout ça. Puis, alors, le gouvernement de la CAQ est à l'opposé de Mme Plante sur cette vision-là de la laïcité, puis du statut des nouveaux arrivants. Elle l'a déjà démontré. Là, elle s'en va, mais il n'y a rien qui nous dit que l'éventuel maire ou mairesse de Montréal, à partir de novembre prochain, ne sera pas de cette opinion-là aussi, parce qu'il y a tellement d'immigrants qui ne sont pas capables de mettre des limites aux pratiques religieuses, puis à certaines pratiques sur l'île de Montréal. Alors, le gouvernement du Québec doit prendre les choses en main pour uniformiser ça, puis je pense que ça relève de M. Legault, puis moi, j'ai hâte qu'il fasse quelque chose là-dessus. Ouais.
Ah, c'était hallucinant de voir ça hier, Maître Bellemare, la piètre performance des animateurs de Tout le monde en parle, qui avait de la difficulté à challenger François Legault. François Legault qui est revenu un peu avec le même discours qu'il avait en 2017, là, guerre aux syndicats, réduction de la taille de l'État. Pourquoi il décide de le faire en 2025? C'est-tu parce qu'il sent que son règne est en train de se terminer, que bon, ça va vraiment mal, puis s'il y avait des élections demain matin, il n'y aurait aucun député, si je me fie au site Québec 125, là, il n'y aurait aucun ouais. député de la CAQ élu. Parce que le François Legault, hier, là, dans son histoire de guerre aux syndicats, puis de guerre avec les médecins, il me faisait penser au François Legault de 2017, mais il y aurait eu tant d'années pour réaliser ce qu'il voulait réaliser en 2017. Puis là, on dirait qu'il pense nous ravoir une deuxième fois, là, avec les mêmes propos qu'il y avait en 2017.
Oui, mais c'est Jean Charest aussi qui avait proposé ça en 2003, avec une réduction d'impôts substantielle. On parlait à l'époque de l'État obèse et tentaculaire et tout
Exact.
ça. Puis il y avait un programme électoral qui était quand même très audacieux, baisser les impôts de 5 milliards, etc. Les PPP, les partenariats public-privé. Mais évidemment, tout ça ne s'est pas fait là parce que Charest a été élu à droite puis a gouverné à gauche. Et comme la plupart des gouvernements depuis ce temps-là, puis M. Legault a fait exactement la même chose. Je te rappelle que l'élection de la CAQ a eu lieu en novembre 2018 et le shutdown pandémique est survenu le 13 mars 2020. Alors, entre novembre, je pense que c'est le 6 novembre qui a été élu en 2018, entre novembre 2018 et mars 2020, il y a quand même, 17 mois. Alors, dans ces 17 mois-là, M. Legault a eu amplement le temps de dire, on va abolir un ministère, on va abolir des agences, on va abolir des commissions, on va réunir un certain nombre d'organismes pour diminuer le fardeau fiscal des Québécois. On va couper des postes, on ne renouvellera pas les postes, on va dire au Conseil du Trésor de couper là, puis là, puis là, faire en sorte qu'il n'y ait pas d'autres postes, parce qu'on sait que depuis que M. Legault est là, il y a à peu près 10 000 fonctionnaires de plus au Québec. Alors, hier, il s'est défendu en disant, et ces gens-là donnent des services, mon œil, ils donnent des services, c'est quoi l'affaire? On essaye de donner les mêmes services avec moins de monde, c'est ça le but. Et l'objectif visé par la CAQ, parce que la CAQ est un gouvernement de comptables, un gouvernement plus centre-droite pour lequel on a voté en 2018. Alors, je comprends qu'avec la pandémie, il y a eu un bout de temps où il ne pouvait pas faire grand-chose. Commencer à réduire la taille de l'État en pleine pandémie, alors que les gens ont besoin de services, puis alors qu'une quantité substantielle de travailleurs de la santé sont en burn-out ou incapables d'accéder à leurs fonctions, ça, c'est plus difficile. On avait besoin de ressources pour s'occuper des gens, surtout dans le réseau de la santé. Maintenant, il reste qu'il y avait quand même 17 mois pour agir avant la pandémie, puis il n'a rien fait. Et le deuxième mandat, avec 90 députés, en novembre 2022, rien non plus. Et on s'est occupé avec M. Fitzgibbon, le super ministre de l'Économie, d'aller développer des projets comme Northvolt, puis Lyon, puis tout ça. Mais il n'y a personne vraiment qui s'est occupé de réduire la taille de l'État puis d'arrêter l'embauche de nouveaux fonctionnaires que le Conseil du Trésor, avec Mme Lebel, a permis d'embaucher. Alors, là, il est plus crédible, là, M. Legault. Les gens ne veulent plus avoir François Legault comme premier ministre. Puis ça s'explique parce qu'il n'a pas respecté ses engagements. Il est trop tard. Puis là, il y a beaucoup de matelots qui quittent le bateau, à l'heure actuelle. Puis moi, je te prédis que d'ici aux fêtes, il va y avoir encore deux, trois personnes qui vont quitter. Et ça a l'air qu'il y a beaucoup d'insatisfaction. Les gens commencent à se trouver des jobs ailleurs. Puis, Maïté Blanchette, la députée de Rimouski, est restée en poste. Alors, j'ai pensé à toi quand j'ai vu ça. Je me suis dit, tiens, Yannick va être content. Elle n'a pas démissionné. Il n'y aura pas de partiel. Mais en même temps, elle va rester comme députée indépendante de Rimouski, l'ancienne ministre des Forêts. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner comme députée indépendante pendant la prochaine année jusqu'à l'élection de novembre 2026. Mais écoute, j'ai l'impression qu'il y a encore d'autres personnes qui vont quitter, dans la mesure qu'ils vont se trouver des emplois ailleurs. Je ne pense pas qu'ils vont rester dans le gouvernement de la CAQ encore bien, bien longtemps.
Maître Bellemare, on parle d'un autre sujet. On a résolu un meurtre qui datait déjà de plusieurs années, le meurtre de la jeune Catherine Daviau. On a trouvé le coupable. Malheureusement, le coupable est déjà décédé, donc il n'y aura jamais un procès en bonne et due forme. Mais la police a réussi à résoudre ce meurtre-là de deux personnes qui sont avec deux personnes qui sont décédées avec l'aide de banques de généalogie récréative, donc le fameux Ancestry, là, pour savoir d'où viennent nos ancêtres. On envoie une part de notre ADN, puis eux autres mettent ça dans leur banque d'ADN, ce qui fait en sorte que si j'étais quelqu'un qui avait commis des crimes comme un meurtre, ben aujourd'hui, je pourrais commencer à stresser, même si ça fait 30, 40 ans que j'ai commis ce meurtre-là. Pour ça, Maître Bellemare, je trouve que c'est une bonne chose, mais je ne sais pas si vous aviez pensé à ça, là, mais les fameuses banques d'ADN pour la généalogie, si jamais les compagnies d'assurance commencent à mettre la main là-dessus, on est fourré, là. Parce que
Dans quel
si ton
sens?
grand-père est décédé du cancer, puis ton père est décédé du cancer, puis toi, tu demandes à être assuré, Maître Bellemare, la compagnie d'assurance qui consulte la banque d'ADN de généalogie récréative, puis qui découvre que ton grand-père, ton arrière-grand-père, puis ton père sont morts du cancer à l'âge de, je sais pas, moins 45, 50, 60 ans, ça se peut que ta prime d'assurance augmente, là. Et ça, je trouverais ça
Ouais.
catastrophique, Maître Bellemare.
Bien, ça se peut qu'on en vienne là parce que tu regardes, je pense au cancer du sein, par exemple, qui est une pathologie qui est fortement héréditaire, semble-t-il. En tout cas, on nous dit que c'est fortement héréditaire. Chez les hommes, cancer de la prostate, c'est un petit peu la même chose. Cancer du poumon, etc. C'est sûr qu'aujourd'hui, on fume moins, mais il reste qu'il y a des questions héréditaires qui peuvent se poser. Et tu as raison, éventuellement, les assureurs pourraient tomber là-dessus puis essayer d'en tenir compte, un peu comme ils tiennent compte aujourd'hui du fait que tu fumes ou que tu fumes pas, pour augmenter ou non tes primes, comme ils tiennent compte aussi de l'alcool pour la conduite automobile, etc., l'assurance automobile pour les dommages matériels. Mais
Hein,
moi, je trouve que c'est...
des
Écoute...
crises cardiaques, Maître Bellemare, tu sais, des
Ouais.
gens qui, dans leur famille, ont des problèmes de crise cardiaque. Si jamais les assurances découvrent cette banque-là, ça va être l'enfer tantôt, là, pour s'assurer, là.
Oui, mais écoute, moi, si j'étais, on parlait de l'assassinat de Mme Daviau qui est survenu en février 2008. On a trouvé finalement le pourri là, qui l'a tué, là, qui est Jacques Bolduc, qui est mort en 2021, qui était à Archambault. Je pense qu'il était détenu pour d'autres raisons au moment du décès. C'est le SPVM qui a réussi à travers les banques, effectivement, d'ADN. On appelle ça de la généalogie génétique. De trouver M. Bolduc, parce que quelqu'un de sa famille, c'est pas lui qui a donné un échantillon d'ADN, mais c'est quelqu'un de sa famille qui a fait ça, probablement de façon accidentelle. Mais je me demande aussi, Yannick, là, admettons que toi, tu sais là, que pour X raisons, dans la famille, ça se parle, là, tu sais qu'il y a un de tes cousins ou il y a un de tes frères ou de ta sœur ou quelqu'un de ta famille là, qui a fait une connerie, là, qui a tué quelqu'un, ou tu as de forts soupçons. À l'effet qu'il est trempé dans quelque chose de pas correct, dans des groupes criminalisés ou peu importe. Tu donnes ton ADN, toi, sachant très bien que ça va se retrouver probablement dans les banques auxquelles les policiers ont accès. Alors, tu vas peut-être permettre d'élucider un meurtre ou un crime grave grâce à ton don d'ADN à toi. Alors, on pense tous que c'est des questions fortuites, puis qu'il y a quelqu'un demandé dans la famille qui dit, moi, je vais envoyer ça à Family Tree DNA. qui est une des grandes compagnies qui reçoit évidemment des échantillons de salive. La plupart du temps, c'est ça. À partir de l'échantillon de salive, ils vont être capables de savoir ton profil génétique. Puis c'est là que la police, elle, va peut-être savoir que ton frère qui a tué quelqu'un a une salive compatible. Puis à ce moment-là, ils vont te demander à toi de donner des échantillons plus poussés. Et ils vont être capables de savoir que ton frère a commis un crime grave. Alors, mais c'est FamilyTree DNA ou GEDmatch, hein, qu'on appelle les deux grandes compagnies. Mais je pense que c'est fortuit la plupart du temps, mais je me dis aussi que c'est peut-être une bonne manière pour quelqu'un qui soupçonne un proche parent d'avoir commis un crime grave, éventuellement d'en venir à ça. Parce que dans le cas de M. Bolduc, la police était sur le point de l'exhumer pour aller chercher des échantillons osseux ou des échantillons de tissu, peut-être, à partir de quelque chose qui pourrait relier M. Bolduc, parce que Bolduc avait, semble-t-il, laissé quantité de traces sur les lieux où Mme Daviaud a été retrouvée nue, ligotée, incendiée, parce que c'est ce qui s'est produit à Rosemont le 11 février 2008. Mais c'est quelqu'un de sa famille, finalement, qui a été approché par la police et qui a décidé de donner un échantillon d'ADN plus poussé pour pouvoir en arriver jusqu'à M. Bolduc. Parce qu'autrement, il allait l'exhumer. Fait qu'il y a quelqu'un qui a dit, on va le laisser requiem in pace, là. On va le laisser où ce qu'il est. Puis moi, je vais donner un échantillon pour que vous puissiez boucler la boucle. Et c'est ce qui a permis de conclure, hors de tout doute, là, à la culpabilité pour meurtre prémédité de Jacques Bolduc en 2008.
Est-ce que, moi, je suis pas au fait de ça, Maître Bellemare, puis j'ai l'impression que, en fait, j'imagine que vous le savez, là, mais est-ce que quand on découvre comme ça ce genre de meurtre-là qui a été commis par tel individu, mais l'individu est décédé, y a-t-il un juge qui doit se pencher sur la situation puis mettre son approbation comme quoi c'est bel et
Oui.
bien cet homme-là qui a tué cette pauvre
Non,
femme-là?
non, non, non. C'est la police qui conclut en fonction des preuves qu'ils ont avec le profil génétique.
OK.
Mais si tu veux exhumer quelqu'un, ben oui, tu rentres pas dans le cimetière avec une pépine, puis bon, on va aller voir, on va aller chercher un os du bassin de M. Bolduc, là. C'est pas comme ça que ça marche. Et souviens-toi, il y a quelques années, peut-être un an ou deux, la jeune Sharon Pryor, une jeune fille de Montréal,
Ouais.
qui avait, je pense, 16 ans au moment où elle a été kidnappée, violée, assassinée, retrouvée dans un parc à Longueuil en plein hiver. Moi, j'ai bien connu la famille Pryor parce que j'ai travaillé avec eux auprès de la police de Longueuil, puis tout ça à l'époque. Et on a finalement réalisé, à travers exactement la même chose, la généalogie génétique, que c'était un Américain qui était de passage à Montréal à l'époque et qui avait tué Sharon. Et on a réussi à faire le lien à partir de l'exhumation, parce qu'on a exhumé l'assassin aux États-Unis. Et c'est un juge américain qui a autorisé l'exhumation, parce que tu peux pas exhumer un corps comme ça. Mais avec les doutes qu'on avait, la police américaine et la police de Longueuil avaient travaillé ensemble. Avec les doutes qu'on avait, on a réussi à savoir qui était l'assassin de Sharon Pryor. Et ça, là, écoute, c'est près de 50 ans après, parce que je pense que c'est en 2024, si ma mémoire est fidèle, pour un assassinat qui a eu lieu en 1975 dans le quartier Saint-Henri à Montréal. Elle s'en allait rejoindre ses amis dans une pizzeria, puis elle s'est jamais rendue. Alors, on a réussi à le faire parce qu'on a exhumé, mais au Québec, ce serait exactement les mêmes règles. S'il avait fallu exhumer M. Bolduc à ce moment-là. Mais je me demande, je me suis posé la question quand j'ai vu ça, puis je me disais, si le corps est incinéré, s'il est dans un petit bocal en poudre, là,
Oui.
y a-tu de l'ADN aussi là-dessus? Je ne sais pas.
Faudrait demander à
Je
un
ne sais pas
spécialiste,
ce
mais
qu'il
je
faut
sais
dire.
que même s'il est incinéré, il reste des petits fragments d'os. Et ces fragments d'os-là sont réduits en poudre, là. Est-ce qu'ils sont capables d'aller rechercher de l'ADN après tant d'années dans ces fragments d'os-là? Là, faudrait aller chercher un spécialiste de
Ouais,
l'ADN.
c'est ça. Parce que souvent, on va y aller, tu sais, pour voir l'ADN, on peut aussi y aller à partir de cheveux ou à partir d'une brosse à cheveux ou une brosse à dents, quelque chose du genre. Mais c'est sûr que si le gars est mort en 2021 et qu'on n'a rien de ça, on n'a pas conservé ça. À ce moment-là, la seule façon d'accéder, c'est d'aller chercher un morceau d'os ou quelque chose qui va nous permettre de faire le lien à travers le profil génétique. Mais Peut-être qu'il y a des auditeurs qui vont être capables de te dire, oui, on est capable d'aller chercher de l'ADN dans une urne funéraire. Moi, j'en doute. J'imagine que, écoute, il fait pas mal chaud dans le fourneau, là. Je pense pas qu'il reste grand trace de cheveux puis d'empreintes digitales ou même de morceaux d'os, là. Je sais pas, mais peut-être que c'est possible. Certainement, à tout le moins, plus compliqué.
OK, ben vous répondez à mes questions. J'étais persuadé, moi, qu'il y avait un juge qui se penchait sur la preuve de la police concernant cet individu-là qui avait tué cette femme-là. L'individu est mort, donc on ne peut pas nécessairement retenir on peut pas nécessairement retenir son témoignage. Il n'y en aura pas de témoignage. On a la preuve d'ADN. Fait que je me disais, il y a un juge qui regarde ça, puis merci, bonsoir, c'est fini, c'est terminé. Parce qu'il y a ça quelques années, j'avais reçu en studio des avocats, des jeunes avocats qui s'étaient amusés à refaire le procès de la Corriveau. Cette femme qui était accusée d'être une sorcière puis qu'elle avait tué ses maris. Mais avec les nouvelles lois d'aujourd'hui, puis de mémoire, là, on l'avait déclarée non coupable des crimes qui lui étaient reprochés. Fait que c'est peut-être ça qui me jouait dans la tête, là, qu'on refaisait un genre de petit... un petit procès pour finalement déclarer l'individu coupable ou non, même si le gars est décédé, là.
Mais si le gars est décédé... Il ne sera jamais accusé. Tu ne peux pas accuser un mort. Alors, s'il est décédé, même s'il décède en cours de procès, à ce moment-là, le procès est complètement avorté parce que tu ne peux pas déclarer coupable une personne qui n'a pas eu l'opportunité de se faire entendre et de soulever à tout le moins un doute raisonnable. Alors, ça peut être un peu tannant pour la famille, mais moi, je pense qu'à la limite, la famille pourrait dire, ben, le SPVQ, le SPVM plutôt, parce que c'est le service de police de la Ville de Montréal qui est impliqué, parce qu'elle a été assassinée dans le quartier Rosemont à Montréal en 2008. À ce moment-là, la famille pourrait dire, non, 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 vous n'avez pas une preuve assez bonne pour mettre la face de mon frère Jacques ou de mon cousin Jacques ou de mon père Jacques à la TV pour dire que c'est lui qui a assassiné Catherine Daviau. Je te dis pas que ça serait pas possible éventuellement, mais honnêtement, j'ai l'impression qu'ils ont quantité de preuves, là. Ils savaient que Madame Daviau avait mis son véhicule en vente. Ils savaient qu'il n'y avait pas de trace d'entrée par effraction. Donc, elle a ouvert la porte. Ça veut dire qu'elle attendait quelqu'un. Et ce quelqu'un-là était probablement M. Bolduc, qui s'était présenté comme étant un prospect, un éventuel acheteur de ce véhicule automobile-là. Puis une fois rentré dans le logement, ben là, il a procédé à sa triste opération qui consistait à l'agresser sexuellement, puis à la tuer et à mettre le feu à mettre le feu au logement aussi pour faire disparaître des preuves. Mais semble-t-il qu'il avait trouvé quand même de l'ADN en masse sur les lieux.
Il y a un botch de cigarette qui n'avait pas brûlé, puis il avait réussi à aller chercher de l'ADN un petit peu aussi là-dessus. Maître Bellemare, on va faire une courte pause et on revient tout de suite.
Marceau le soir. Marceau le matin. Marceau le matin. Le matin.
Soleil qui se lève avec nous autres. Salut Soleil, salut les auditeurs, salut à tous ceux qui nous ont écrit entre 5h et 6h. Vous êtes de bonne heure à Québec?
OK, oui.
C'est qui se passe?
Toi aussi, t'es de bonne heure.
Pensez pas qu'il y aurait de la vie avant 10h le matin. J'étais Marceau le soir. Après ça, j'ai fait Marceau le soir à 18h. Après ça, j'ai fait Marceau le midi. Après ça, j'ai fait Marceau le midi à 10h. Puis là, je fais Marceau le matin de 6h à 10h.
Ouais, fait que là, si on veut descendre encore, va vraiment falloir que tu fasses un show de nuit. Puis là, on va faire le tour.
Exactement. Je sais qu'il y a énormément de gens qui sont à l'écoute, des amis, des auditeurs, des collègues de travail. On n'aura pas le temps de vous répondre aujourd'hui, j'en suis pas mal persuadé. Mais sachez que je lis absolument tout ce qui va passer. Puis je vous remercie d'être là. C'est une belle aventure qui débute.
Marceau le matin, tous les jours en semaine, 6h. Puis en rattrapage où, Marceau?
Ben, sur le blvd.fm.
Bravo!
Y a rien là, c'était écrit sur la feuille.
101. Envie de la meilleure poutine maison? Découvrez la toute première sauce à poutine Bergeron. Disponible dans les maxi et sur le site web de la fromagerie au fromagebergeron.com.
À Québec, un Ford, ça se penchait déjà d'un Ford.
Les prix employés Ford continuent chez Desjardins Auto Collection. En ce moment, offrez-vous le Ford F-150 2025 avec jusqu'à 12 975 $ en ajustement de prix et l'Escape PHEV 2025 jusqu'à 5 968 $ en ajustement de prix, incluant l'incitatif provincial de 1 000 $.
À Québec, un Ford, ça se prend chez Desjardins Ford.
Cet automne, la Grande Allée s'illumine et l'atelier t'attend avec sa terrasse chauffée et couverte. Pour un lunch, un apéro entre amis ou une soirée qui se prolonge, c'est LA destination pour manger, boire et célébrer. Tartare, cocktail signature, ambiance festive et surtout, un service de voiturier tous les soirs dès 16h pour une sortie sans tracas. Prochaine sortie, Grande Allée. Réserve dès maintenant sur bistrolatelier.com.
J'ai une question qui me travaille. À combien de semaines de vacances payées ai-je droit par année?
Tout dépend depuis combien de temps vous travaillez pour le même employeur. Exemple, si ça fait 3 ans, vous avez droit à 3 semaines de vacances payées par année. Les normes du travail pour les questions qui vous travaillent. Un message de la CNESST.
Prêt pour une offre que vos yeux vont adorer? Chez Iris, à l'achat d'une nouvelle paire de lunettes de prescription, obtenez 50 % de rabais sur les lentilles de votre deuxième paire. Oui, 50 % de rabais. Ça veut dire des lunettes de soleil, des lunettes d'ordinateur ou tout simplement un style différent pour chaque humeur. Mais ne clignez pas des yeux trop longtemps, l'offre se termine le 23 novembre. Prenez rendez-vous dès aujourd'hui sur iris.ca et voyez le monde avec style. Iris, vision d'exception, style remarquable. Dr. Gilles Saint-Jacques, optométriste.
Davy, le plus grand chantier naval du Canada, recrute activement pour plus de 1000 postes. Peintre, assembleur mécanique, électricien, contremaître et bien plus. Avec un carnet de commandes rempli jusqu'en 2040 et des conditions de travail solides, ose le grandiose pour ta carrière. Postule à davyrecrute.ca.
C'est la grande vente anniversaire chez Uniprix. Cette semaine, économisez gros en profitant des plus petits prix de l'année. Jusqu'au 24 septembre, économisez sur les produits Vichy à 25 % de rabais, Dove à 4,85, Listerine et Sensodyne à 4,99 et les papiers de mouchoirs Scotties à 3,99. C'est tellement gros, vous pouvez pas les manquer. Mais faites vite. Ah, découvrez plein d'autres offres dans la circulaire et venez économiser en succursale. Produits sélectionnés, succursales participantes, détails au uniprix.com.
Vous n'avez pas encore profité de nos prix employés? Bonne nouvelle! Ça se poursuit en septembre chez Levy Ford. Obtenez jusqu'à 19 000 $ de rabais sur nos Mustang Mach-E 2025. Les meilleures offres de l'année vous attendent chez Levy Ford, les forts de Levy.
Hola! Qu'est-ce que je peux vous servir?
Je pense que j'essaierai votre spécial Mercado.fm.
Oh, c'est un excellent choix!
Hé, je suis curieuse, vous mettez quoi là-dedans?
Je laisse mon mixologue vous l'expliquer.
Ce mois-ci, les ingrédients vedettes sont une demande de pardon d'une valeur de 1000 $ pour 500 $ chez Identité Québec et un chèque cadeau d'une valeur de 200 $ pour 100 $ chez Attitude Hélicoptère. Il ne vous reste qu'à savourer votre été sans vous ruiner. Est-ce que c'est dans vos goûts?
Mais hein, je te prends ça!
Mercado.fm, un cocktail de rabais parfait pour votre été.
Vos varices vous gênent? Une évaluation complète effectuée par un médecin phlébologue est la première étape pour vous permettre de retrouver la santé de vos jambes. À la Clinique de phlébologie de Québec, vous serez assuré d'avoir le meilleur traitement de vos varices. Pour des jambes en santé, visitez veine.ca.
Ici Nathalie Clark, porte-parole pour Miville Climatisation Chauffage, le leader en géothermie depuis 25 ans. Avec les systèmes géothermiques Water Furnace, profitez d'un confort durable, d'une efficacité inégalée et de subventions exceptionnelles, jusqu'à 54 000 $ pour une nouvelle installation et jusqu'à 18 000 $ pour un remplacement. Économie d'énergie, respect de l'environnement et expertise certifiée, c'est ça la différence Miville. Miville Climatisation Chauffage, votre confort, notre priorité. Appelez-nous dès aujourd'hui ou visitez miville.ca.
Es-tu au courant? La Ville de Lévis recrute des chauffeurs opérateurs et des chauffeuses opératrices pour l'hiver. Tu as ton permis de classe 1 ou 3?
On t'offre un salaire compétitif et un horaire garanti de 40 heures toute l'année.
Postule maintenant au lévisrecrute.com.
Salut, ici Bob le Chef. La démocratie a parlé, la pizza des fans est au menu d'automne chez Normandin. Créée par vous, fans de nos réseaux sociaux, elle est maintenant dans vos assiettes. Preuve que l'Internet sert à autre chose que de chialer. Puis la pizza arrive aux côtés de grosses pointures. Le retour du fameux pâté à l'oie, mon burger bazooka qu'on sert avec une bavette puis ben des napkins et le cheesy bœuf, un grilled cheese aussi réconfortant qu'une doudou. Hey, avouez que l'automne, c'est le fun. Normandin, ça fait plaisir!
Découvrez le Volkswagen Taos 2025. Ce mois-ci, le Volksfest rend le Taos encore plus irrésistible. Avec 0 % de financement jusqu'à 24 mois, 1000 $ en boni Volksfest et 2 ans d'entretien prépayé. Le Taos 2025 vous attend dès aujourd'hui chez Laval Volkswagen.
L'application Boulevard. Dans une poche près de chez vous. Poche de jeans. Poche de short. Pis même ta poche d'hockey. Appelez, textez, votez, réécoutez. L'app Boulevard 102.1. C'est plus que du rock. Marceau, le soir. La meilleure façon de commencer sa soirée. Marceau, le soir. 102.1.
de SAC, DIVAC de CNESST, c'est belmoreavocat.ca. Chaque lundi, on a le plaisir de passer la soirée avec Maître Marc Bellemare. Je sais pas, Maître Bellemare, si vous avez vu l'article passé, je pense que c'est dans la presse en fin de semaine, où on racontait que trois hommes qui étaient en couple, donc c'était un trio, là. Les trois hommes avaient réussi à adopter un enfant. Je sais que ça s'est ramassé sur les réseaux sociaux. Puis là, bon, il y avait des gens qui étaient complètement homophobes, là. C'est ça, on les oublie, là. Mais il y a des questions qui étaient pertinentes à poser. C'est avec trois pères, si jamais il y a séparation des trois pères, l'enfant fait quoi là-dedans? T'sais, c'est-tu 33%?
Ouais, c'est déjà assez compliqué avec deux personnes.
Je trouvais ça vraiment compliqué.
Une personne, il n'y a pas trop de problèmes. Des fois, tu vois des grands-parents qui veulent avoir des droits de ci, de ça, mais il reste qu'une personne, c'est pas compliqué. Deux personnes, ça l'est déjà beaucoup. Trois personnes, et il n'y a pas juste c'est une question de séparation. C'est que si tu as trois adultes, que ce soit de sexe différent ou du même sexe, qui ont des divergences d'opinion sur l'éducation de l'enfant.
Exact.
Pourquoi fréquentation d'une telle école? Si l'enfant a des problèmes à l'école, si l'enfant est victime d'intimidation, on veut changer l'école, on veut l'inscrire dans des cours privés ou pas privés, hors-études, sport-études. La question des vaccins, on l'a vu pendant la pandémie. Il y a des couples qui se sont séparés parce qu'ils ne s'entendaient pas sur l'opportunité de faire vacciner tel enfant. Il y a des soins de santé, ça peut être la même chose aussi. Cet enfant-là, à un moment donné, avant l'âge de 14 ans, a besoin des parents pour autoriser des soins. Après 14 ans, il y a certains soins importants, comme des chirurgies, qui demandent aussi l'approbation des parents. Donc, il y a un risque, évidemment, de chaos, là, littéralement, au niveau familial. Moi, je pense que deux, c'est assez. Et personnellement, je pense pas que les tribunaux devraient permettre qu'il y ait trois parents. Là, je l'ai déjà dit, puis je suis pas d'accord avec ça, mais là, écoute, on a des décisions des tribunaux de temps en temps qui sont assez surprenantes. Je serais porté à vous dire, pauvre enfant qui va devoir composer avec les orientations qui risquent d'être, pendant un certain temps, certainement concordantes, mais surtout à... au secondaire, là, quand l'enfant est plus vieux, puis que là, il y a un petit peu plus d'opposition, là, ça risque d'être assez rock'n'roll.
Ah, moi, ouais. Je pensais juste à la séparation. Je veux dire, trois parents, une semaine sur trois, t'es avec parent 1, parent 2, parent 3. C'est un peu hallucinant. Est-ce que, parce que nous autres au Québec, on a des mères porteuses, ça semble être illégal ou des fois légal, tout dépendant de comment c'est fait. Le Québec qui a régi ça, mais de ce que je comprends, c'est qu'il y a un rapport de l'ONU qui demande au pays d'éradiquer complètement le recours aux mères porteuses. On dit que c'est une pratique qui est une forme d'esclavage et ça va de la vente d'enfants à la marchandisation du corps des femmes. C'est un dossier qui revient régulièrement dans l'actualité, ça, année après année, mais là, c'est l'ONU qui s'en mêle.
Oui, puis ça, l'ONU considère que c'est l'esclavage de femmes. C'est sûr qu'il y a des pays où les femmes sont de véritables productrices d'enfants. Il y a de l'esclavage là-dedans. C'est sûr. Au Québec, contrairement à la France, contrairement à l'Australie puis l'Inde, parce que la France commence à regarder ça, là, il espérait que le président Macron commence à... Lui, il n'est pas trop favorable, mais il y a certains élus en France qui seraient plutôt favorables à une forme d'encadrement. Le permettre, mais dans un contexte très, très organisé pour éviter justement qu'il y ait une forme d'exploitation de la mère porteuse. Mais l'Australie et l'Inde autorisent la gestation, on appelle ça la gestation pour autrui, pour d'autres personnes, mais d'autres pays comme la Russie, la Géorgie, Israël et l'Ukraine autorisent la gestation pour autrui de nature commerciale. Bien que la Fédération de Russie ait récemment interdit celle à caractère international, c'est-à-dire que tu peux avoir une mère porteuse pour produire un petit russe, mais tu peux pas le faire pour produire un enfant qui va s'en aller, qui va être destiné à l'adoption internationale, par exemple. Alors, c'est compliqué, mais au Québec, ça existe. Et le ministre Jolin Barrette, en 2023, a encadré ça parce que, tu sais, le phénomène des mères porteuses, ça a toujours existé, hein. Et autrefois, au début du siècle, il y a des enfants qui sont nés de mères Ils ont toujours pensé que c'était une autre mère qui avait produit le bébé. Puis finalement, c'est pas nécessairement la même mère. À l'époque, quand les femmes accouchaient à la maison, tu prenais le bébé puis tu le donnais à ta sœur, puis la sœur disait que c'est elle qui avait eu le bébé, puis personne ne le savait, là. On n'avait pas les moyens qu'on a aujourd'hui. Mm-hmm. Mais depuis 2023, la grossesse pour autrui est encadrée au Québec, mais ça doit être à titre gratuit. Alors, la mère peut exiger le remboursement de certains frais, comme des frais médicaux, comme des frais d'hébergement ou des pertes de revenus, par exemple, qu'elle aurait subies. Moi, je trouve ça un petit peu strict, là. Je pense qu'on pourrait peut-être élargir ça puis permettre à une mère porteuse d'avoir une forme de rémunération. Ça ne serait pas nécessairement de l'exploitation, mais je pense que d'interdire à une mère porteuse de collecter quelques sommes que ce soit ou obligatoirement d'agir à titre gratuit, je pense qu'il y a une forme d'exploitation là, parce que si tu l'obliges à le faire gratuitement, en quelque part, si ce n'est pas de l'exploitation, je me demandais ce que c'est. Alors, c'est des critères qui pourraient être visés même au Québec, parce que la loi prévoit que la mère ne peut revendiquer aucun lien de filiation pour l'enfant. Donc, il y a des... Je sais pas, il me semble qu'il y a des traumas psychologiques potentiels associés à ça. Pas nécessairement au début de la grossesse, mais quand la mère l'a porté pendant 8-9 mois, puis qu'elle met au monde l'enfant, il me semble que là, il y a certainement un phénomène d'attachement qui est tout à fait normal, tout à fait humain chez la mère. Et comment on gère ça? Il n'y a pas grand-chose dans la loi là-dessus. Et on dit aussi que l'enfant ne peut pas exiger de lien de filiation, puis la mère ne peut pas non plus. Alors, ça a fait l'objet de consultations pendant plusieurs années au Québec. Et le ministre a tranché de ce côté-là. C'est la situation actuelle, mais ça pourrait éventuellement trancher. Mais l'ONU dit qu'on devrait éradiquer complètement ça, puis on devrait ne pas permettre la grossesse pour autrui. Je doute fortement que ça mette un terme à cette réalité-là dans l'ensemble de la planète. Puis je pense pas que le gouvernement du Québec va modifier sa loi pour autant. Certainement pas à partir d'un rapport de l'ONU.
Oui, bien, je veux dire, à l'ONU, c'est parce qu'il représente toute la planète, l'ONU. Mais en Occident, ce type de choses-là, des jeunes, des femmes qui se font enlever pour produire des bébés à profusion, c'est si ça existe, en tout cas, on n'a jamais vu, là.
Oui.
OK. Hey, dernier sujet, il nous reste à peu près 2 minutes, Maître Bellemare. On parle des droits de la direction et les lésions professionnelles de nature psychologique.
Oui, il y a beaucoup de travailleurs qui sont victimes de congédiements, de suspensions, d'enquêtes de la part de l'employeur et qui disent « Moi, j'ai fait une dépression. À cause de ça, j'ai été obligé de consulter un psychologue, je me sens pas bien dans ma job, puis il réclame à CSST. » Je veux simplement dire que c'est un petit fléau, il y en a beaucoup de ça. Le boss a décidé de me suspendre parce que il soupçonne que j'ai joué dans l'ordinateur. Je fais l'objet d'une enquête parce qu'il y a des clients insatisfaits qui ont dit que j'étais pas bon. C'est pas nécessairement parce qu'un trouble dépressif survient au travail, en lien avec une mésentente avec l'employeur, que c'est un cas d'accident de travail. Je dirais même que l'immense majorité des cas de semblables sont rejetés par la CNESST et le Tribunal administratif du travail. Il faut vraiment être capable de prouver que le comportement de l'employeur se démarque nettement et grossièrement de ce qu'on est habitué de voir au Québec. Ça prend quasiment un comportement sadique et il faut que ce soit un événement soudain aussi, hein? Alors, soudain, imprévu, ça veut dire faut qu'il y ait quelque chose de surprise. Faut pas que ce soit quelque chose ou une mesure de l'employeur qui nous a causé préjudice, qui soit prévisible et qui a évolué à bas bruit pendant plusieurs années. Alors, c'est pas parce qu'un conflit de travail survient que c'est nécessairement un accident de travail. C'est ça que je voulais souligner.
Exact. Maître Bellemare, pour des dossiers de SAC, d'IVAC, de CNESST, c'est bellemareavocat.ca.
À votre service.
Passez une excellente soirée, de même qu'aux auditeurs. Je souhaite de passer une belle soirée aussi. Et on se reparle demain. Puis vous, ce sera lundi prochain, cher ami.
Très bien. Merci. Bonne semaine, tout le monde.
Au revoir, Maître Bellemare. Au revoir, tout le monde.
Marceau, le soir. Boulevard 102 relance son fameux pool de hockey. Présenté par la Fromagerie Victoria. Que tu sois fan de sport ou que tu veuilles juste participer pour le fun, inscris-toi dès maintenant au blvd.fm. T'as pas besoin d'être un pro des statistiques avancées pour participer. T'as juste besoin de bien du vouloir pour battre tes chums, pis Max.
Hey, wow, wow, wow!
Des prix délicieux de la Fromagerie Victoria seront remis tout au long de la saison.
Boulevard et Fromagerie Victoria te souhaitent bonne chance!
Saviez-vous que Vacances Sunwing offre maintenant des forfaits tout inclus pour la Jamaïque au départ de Québec? Visitez décollerdequebec.ca ou consultez votre conseiller en voyage.
Imaginez-vous au volant du tout nouveau Volkswagen Taos 2025. De la place pour toute la famille, une technologie intelligente à portée de main et surtout, une vraie soif d'aventure. Ce mois-ci, le Volksfest rend le Taos encore plus irrésistible avec 0 % de financement jusqu'à 24 mois, 1 000 en boni Volksfest et 2 ans d'entretien prépayé. Un VUS polyvalent, des offres imbattables et la liberté de partir où vous voulez. Le Taos 2025 vous attend dès aujourd'hui chez Volkswagen Saint-Nicolas.
L'École des Ursulines, au cœur de l'histoire, allie héritage et innovation pour former les leaders de demain. De la maternelle à la sixième année, découvrez un enseignement humain et inspirant. Nos portes ouvertes vous attendent le 27 septembre de 9h à 12h30 à l'École des Ursulines.
Les soirées se rafraîchissent